je pense que le religieux, et c'est une des dimensions notamment, le religieux est aujourd'hui distillé par l'image et nourri de l'imaginaire. On est dans des mises en scène, dans une civilisation iconique évidemment, où le religieux aujourd'hui dit énormément de choses par l'absence du discours. Hein. L'image suffit. Et la plus belle synthèse, c'est entre autres le drapeau de Daesh. C'est quand même quelque chose de très intéressant à continuer à analyser. Donc, je te vois, Reda. Donc, le drapeau noir, la couleur du noir n'est pas innocente. Le symbole au milieu n'est pas innocent. Donc, on a le sceau de la prophétie, on a le drapeau représentant la couleur abbasside, on a l'autoproclamation d'un calife qui ferait peut-être rire tout le monde, mais qui n'a pas fait longtemps rire, parce qu'on s'est rendu compte qu'il a été capable de mobiliser à l'international, dans cette oumma mondialisée, plus de 30 000 individus qui l'ont rejoint. Donc, ce qui aurait pu être risible à un moment donné ne l'a plus été, parce qu'évidemment, il a surfé sur des blessures profondes. On parlait ce matin de la question de l'histoire et de la mémoire, mais c'est des histoires et de la mémoire qui sont aujourd'hui aussi nourries par des dimensions de l'image qui ont une puissance et une logique de rassemblement très forte. C'est pour ça aussi que Rabeta, notamment, ce qu'elle a pu faire, développer en tout cas comme outil, c'est que très tôt, notamment, et je suis d'accord avec ce qui a été dit notamment hier dans les rapports, sur attention à l'intérêt aussi sur le virtuel et l'hyper-intérêt sur le virtuel qui serait la panacée de tous les problèmes. Mais il y a eu effectivement un travail sur les textes, développé par la Rabeta, mais également un travail de diffusion sur la toile Internet. Et aujourd'hui, ils sont dans des diffusions par la BD notamment, par des BD pour enfants, mais également des BD pour adultes, avec des productions qui sont tout à fait intéressantes. Et donc, on pourrait notamment mettre sur les plateformes communes et le partager entre les partenaires le résultat de ces recherches-là. Donc, c'est des petits cahiers, des petits livrets sur les résultats et de la déconstruction et de la mise en image pour proposer, évidemment, un positionnement, en tout cas, par rapport à cette question de la violence et des propositions et des pistes de sortie en promouvant notamment la non-violence. Voilà.
Oui, et je retiens la phrase que tu as dit, Farid, le religieux dit des choses en l'absence du discours, l'image suffit. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour déconstruire et parler de ce sujet de la violence. Et je rappelle aussi que nous avons 5 minutes, chaque intervenant a 5 minutes pour... Non, tu ne l'as pas dépassé. 5 minutes pour parler, exposer ses idées et pour interagir entre nous par la suite. Donc, sans tarder, je cède la parole au deuxième intervenant et le plus jeune aussi. Alors, il s'agit de Saïdi Djamilian, qui est islamologue, docteur en études arabes de l'Université de Strasbourg et actuellement chercheur postdoctorant au laboratoire Population, Environnement et Développement à l'Université Aix-Marseille, auteur de plusieurs publications sur les conflits idéologiques intra-islamiques au sud du Sahara, des rapports entre religieux et violence, ainsi que sur la poésie soufie. Ancien responsable du pôle dialogue de l'association Coexister Strasbourg, auparavant chargé de recherche au Timbuktu Institute, il est aussi secrétaire permanent du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Je te cède la parole, Djamil.
Merci beaucoup, ma très chère amie Yousra. Et comme j'ai 5 minutes, je ne vais pas te remercier, Farid, pour l'invitation. Mais comme je ne vais pas te remercier, tu peux la prendre comme un remerciement. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, ce que je vais parler de manière assez rapide de ce que j'appelle, bon, que je suis en train de développer, mais j'appelle le dilemme de l'islam sénégalais et le dilemme de l'islam africain, subsaharien de manière générale, sachant que, entre parenthèses, l'islam sénégalais et l'islam africain n'existent pas. Ce sont juste des termes génériques qu'on utilise. Il y a des musulmans en Afrique, des musulmans au Sénégal qui ont de différentes manières de pratiquer cet islam. Mais pour faire rapide, je parle d'islam africain, islam sénégalais, mais entre guillemets, quoi. C'est pour ça que j'ai intitulé un peu mon intervention « Préservation de la tradition ». Prévention de la radicalisation et contestation de l'islam confrérique, le tout dans une dynamique unitaire, c'est-à-dire comment faire en sorte de mieux fortifier cet ancrage de l'islam confrérique. Alors oui, ça, je commence par le commencement, parce que l'introduction de l'islam au Sénégal, les historiens parlent de l'offensive almoravide, nous sommes au XIIe siècle. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, c'était une pratique de cours, c'est-à-dire qu'on pouvait voir un groupe se convertir à l'islam et du jour au lendemain, puisque les conquérants sont partis, bah, qu'ils vont changer de religion parce qu'ils étaient soumis peut-être aux épées et non pas au Seigneur derrière les hommes qui sont derrière ces épées. Et ça a continué comme ça pendant un moment jusqu'à la phase vraiment de la démocratisation de cet islam grâce aux quatre confréries, la Qadriya, la Tijaniya, la Layen, la confrérie des Layen et la confrérie des Mourides. Et cet islam confrérique a un ancrage, si ça vous intéresse, je pourrais donner quelques chiffres après. Du coup, il y a des organisations qui sont non pas hiérarchiques, mais parfois polyarchiques. C'est-à-dire qu'il y a même des mutations à l'intérieur même de ces quatre confréries. D'accord. Maintenant, cette présence confrérique a dominé pendant longues années. C'est pour ça, à l'époque, nos amis africanistes aimaient parler de l'islam noir. On se souvient de la phrase de Paul Marty. Un musulman sénégalais est forcément soumis à un marabout. Quand tu lui dis qui tu es, il dit je suis musulman et un marabout, mon sœur est un tel. C'est-à-dire qu'on ne savait pas faire la différence entre l'appartenance ou bien la soumission à un marabout et l'appartenance à une religion. Il y avait un peu d'exagération, mais ça a dominé le champ académique pendant un moment. C'était Vincent Vonteil, mais c'était plus tard, on a eu des Christian Coulon, jusqu'à ce qu'il y ait la phase de rupture avec des chercheurs comme le docteur Sergueï Bakary Samb, les Sophie Bava et consorts qui ont apporté en tout cas d'autres modes d'analyse qui rompaient avec des préconçus d'antan. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, là, on a commencé à voir l'arrivée des mouvements contestataires. C'est-à-dire, derrière les mots contestataires, je mets des musulmans qui se réclament du salafisme, des musulmans qui sont plus proches du modernisme intellectuel de Mohamed Abdou et de Jamal Din el-Afghani, des musulmans peut-être ce que René Otayek appelle les musulmans mondains. Le terme est pourri, je le sais, mais c'est comme ça qu'il les appelle. C'est-à-dire des gens qui se disent musulmans, mais qui ne se réclament ni de salafisme, ni des frères musulmans, ni des confréries soufis. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que dans ces discours contestataires, il y a un mouvement bien particulier qui aspire non pas, si on peut dire, à l'éradication même de cet islam confrérique, qu'il pense être une innovation, un bid'ah. Et là, c'est un mouvement qui va puiser dans les thèses de Mohamed Ibn Abdul Wahhab et consorts, de quoi contester cet islam confrérique qui a dominé pendant longtemps. Pourquoi je dis cela? C'est que récemment, au Sénégal, il y a eu un procès historique sur terrorisme et apologie du terrorisme. Et à l'époque, quand Dr Bakary Samb nous avait envoyé à Velingara avec un ami Mbassa Thioun, on avait un panquette là-bas et on s'est rendu compte que l'un des condamnés, c'est-à-dire Omar Yafa, est passé par ces écoles où on enseignait cette contestation de l'islam confrérique. Et il est passé dans ces écoles, il a été nourri de ces discours contestataires avant même d'aller rejoindre le groupe de Chekao avec la secte Boko Haram. Voilà, Boko Haram. Mais récemment aussi, en Libye, il y a eu une menace que la presse sénégalaise a publié, qui nous venait d'un Sénégalais qui était dans un groupe djihadiste basé en Libye. Il disait, le djihad est notre religion. L'islam nous a ordonné de combattre ceux qui ont apostasié. Au Sénégal, l'islam est caricaturé et le Sénégal va savoir qu'Allah nous a choisi pour combattre. Et une fois le cadre argumentatif défini, il s'est attaqué à la confrérie Mouride qui, selon ses propres dires, adore Serigne Touba en dehors d'Allah. Serigne Touba étant Cheikh Ahmadou Bamba.
Du coup, il a défini un cadre argumentatif qu'il va puiser dans la rhétorique d'un groupe très connu de contestation de l'islam confrérique. L'exemple que je peux donner, c'est Omar Sall, qui est un prédicateur très célèbre au Sénégal et très influent aussi sur les réseaux sociaux. Et à un moment donné, il disait, dans un enregistrement qui a été rendu public, il taclait Cheikh Ibrahim Agnès de la Tijaniya et Cheikh Ahmadou Bamba. Et il disait, les disciples d'Ibrahim Agnès se prennent pour Dieu. Et dans ses critiques de la confrérie Mouride, il disait qu'il faisait part de ce qu'il appelle les dangers de poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba pour le credo islamique. Du coup, vous voyez comment un discours qui est transmis dans un cadre précis va être récupéré par des groupes, par contre, cette fois qui feront appel à la violence. Mais face à ces contestations, qu'est-ce qui se passe? Soit on peut avoir des réformes internes des confréries, on l'a vu, peut-être certaines réformes, peut-être Cher pourrait y venir plus, mieux que moi, peut-être certaines réformes n'ont pas de lien direct avec ce discours, mais on a le Hizb ut-Tahrir chez les Mourides qui a essayé d'avoir une autre vision. Chez les Tijanes, il y a eu les Moustachidines ou les Moustachidates qui essayent d'allier modernité, mais aussi de s'ancrer dans la tradition. Mais il y a autre chose qui est née pour justement essayer de préserver cette tradition, sachant que préserver cette tradition, c'est-à-dire cet islam confrérie que nous connaissons, ailleurs qui n'a pas été toujours paisible pour nos amis qui pensent que dès qu'on parle de soufisme, on parle de paix. Le soufisme, c'était Cheikh Ahmadou Bamba, mais c'était aussi des gens qui ont pris les armes, Cheikh Arsalan en Syrie, c'était un peu Al-Hadji Omar Fouti Youtal qui s'est battu. On a des exemples, Abdelkader Djezairi, même si c'était un autre contexte. Du coup, il y a eu des initiatives de dialogue intra-islamique au Sénégal, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Parce que je pense que mon ami l'a dit tout à l'heure, il était dans le dialogue interreligieux. Moi aussi, j'étais dans le dialogue interreligieux pendant des années. Mais je pense que les musulmans ont raté quelque chose, le dialogue intra-islamique. Comment faire en sorte que des personnes qui se réclament de la même religion puissent s'asseoir autour d'une table pour parler de différents sujets sans se taper dessus? C'est très compliqué, hein? C'est pas évident. Je pense que Cheikh pourra y venir tout à l'heure avec le cadre unitaire. Mais le cadre unitaire, il a réussi à mettre ensemble des gens peut-être qui n'étaient pas destinés, mais qui, s'il n'y avait pas le cadre unitaire, ne pourraient pas se rencontrer. Pourquoi je dis cela? Parce que je pense que j'ai encore une minute et demie.
Une minute.
Ah, pas et demie.
Une minute.
Ok. Pourquoi je dis cela? C'est que une fois, je discutais avec un ami égyptien, un cheikh Azhari, qui fait sa thèse maintenant à Strasbourg. Ben, il m'a dit, Jamil, mais pourquoi il y a une paix comme ça au Sénégal? Il y a une tolérance, la religion est présente, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Et moi, le naïf que j'étais, je lui dis, écoute, c'est parce qu'il y a les confréries soufis. En fait, j'étais une fausse bonne idée. Parce que, en réfléchissant, je dis, en fait, les confréries sont au Nigeria, mais ça n'a pas suffi. C'est qu'il y a des ressources endogènes, Cheikh nous l'expliquait ailleurs, qui ont fait que les confréries ont pu occuper cette place. Pourquoi il y a le soufisme au Mali et non pas cette force? Pourquoi il y a des soufis au Maroc, mais il suffit d'aller parfois, nous, quand on va à Fès, à 200 mètres de la Zawi Ahmed Tijani, on peut demander à des Marocains, vous voyez où se trouve Ahmed Tijani? Ils peuvent dire non, on ne sait pas de qui il s'agit. Mais au Sénégal, il suffit de parler de Ahmed Tijani et tu peux voir même des gens trans. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs endogènes qui ont permis à ces confréries de s'implanter, mais aussi de préserver un peu le contrat social sénégalais. Il me reste 15 secondes, je suis en train de calculer. Je vais finir avec une autre donne que j'observe un peu, par contre, cette fois chez des amis qui sont dans la mouvance afroféministe. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, je pense, c'était à la pause, on parlait un peu de la mémoire et de l'histoire. Mais je pense qu'il y a quelque chose que nous avons raté. Là aussi, ce n'est pas le dilemme de l'islam sénégalais, mais c'est le dilemme de l'islam africain. C'est qu'il y a quelque chose que nous avons raté à un moment donné. Quand on parle de la violence et de la mémoire, c'est que moi, je veux bien qu'on passe tout le temps notre temps à parler de ce qui s'est passé avec nos amis français et tout ça, qui quand même ont quand même voté une loi pour reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité, d'accord ? je cherche un pays arabe qui l'a fait, alors que la traite transsaharienne a été beaucoup plus longue, a fait beaucoup, beaucoup plus de victimes. Et ce que je constate chez, parfois dans les mouvements afroféministes, c'est qu'elles peuvent se dire, des femmes qui vont se dire, oui, nous sommes musulmanes, mais avant d'être musulmanes, nous sommes des négro-africaines et que nous avons des comptes à régler avec nos amis, même si on partage la même religion. Je pense que c'est une question sur laquelle... J'ai fini ? D'accord, bon, je finis avec ça. En
20
disant,
secondes pour finir.
Une seconde.
20 secondes.
20 secondes, ça va le faire.
Je suis généreuse.
Je t'offre 10 secondes, je le fais en 10 secondes. Pour finir avec ça, je pense que le premier piège, c'est d'éviter ce que d'aucuns appellent les murs anthropologiques. Bakary l'a dit, l'autre, tu l'as dit tout à l'heure aussi Farid. C'est que quand on vient et qu'on va transplanter, par exemple, le dialogue interreligieux, ça n'a aucun sens au Sénégal. On parle parfois du dialogue islamo-chrétien, mais il y a d'autres choses qui marchent un peu plus. Ces ressources endogènes, je pense qu'ont beaucoup plus pas plus de valeur, mais plus de succès que d'autres choses que nous pouvons plaquer comme ça en sortant de nos universités.
Merci Djamil pour tes explications, je te remercie. Et on passe directement au troisième intervenant, le Cheikh Gueye, qui est docteur en géographie de l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Il a travaillé depuis plus de 20 ans comme chercheur sur l'articulation entre les religions, les territoires et les identités dans le contexte de la mondialisation, en prenant comme exemple principal la confrérie mouride au Sénégal et d'autres ordres religieux. Il est actuellement chercheur en charge de la prospective et de la stratégie au secrétariat exécutif d'Enda Tiermonde. Il est l'auteur de nombreuses publications, y compris des livres et des articles dans des ouvrages collectifs. Il va nous parler du cadre unitaire dans ces temps de d'effervescence et de confusion religieuse. Je vous donne la parole.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je vais effectivement parler du cadre unitaire comme moyen de couper les racines de la violence extrémiste au Sénégal. Parce que malgré tout ce que Djamil a dit, cette violence extrémiste, elle a aussi ses racines avec le développement de mouvements wahhabites qui ont à un moment donné aussi pris le même chemin que dans les autres pays jusqu'à un certain niveau. Donc pendant longtemps, le Sénégal a joui d'une réputation de terre d'exception où le pluralisme des confessions et les particularismes des attachements doctrinaux rimaient avec harmonie et juste milieu. Tout le monde a constaté la densité de la littérature là-dessus. Et également de traditions séculaires de métissage et de mobilité qui ont préparé et enfanté une société où la parenté, c'est ce que disait Djamil tout de suite, au-delà du fait qu'il y ait des confréries, il y a aussi la parenté. Il y a aussi une tradition d'ouverture à l'autre, d'acceptation de la pluralité. Et des principes de vie conciliants. On dit aussi, voilà, le Sénégal, c'est un pays de dialogue. Les Sénégalais sont des dialogueurs dans l'âme, partout dans le monde, aux Nations Unies, partout. Voilà. L'âme du Sénégalais, c'est une âme de dialogueur. Mais les temps semblent changer. En effet, l'espace public sénégalais devient de plus en plus l'objet d'un travail de capture. De la part de nombreux groupes qui s'y affichent de manière plus ou moins bruyante, avec des projets plus ou moins structurés. Et même à l'intérieur des confréries, les positionnements se sont aussi beaucoup diversifiés. On est, je pense que ma thèse aussi l'avait beaucoup montré, qu'il n'y a pas cette homogénéité même à l'intérieur des confréries. Alors que pendant très longtemps, on a pensé que toutes ces confrères étaient des organisations très hiérarchisées où l'ordre, la discipline règne. C'était complètement faux. Donc, de plus en plus, on observe des escarmouches entre les confréries soufis et les organisations de tendance wahhabite, des violences verbales et physiques, des interprétations doctrinales extrêmes, des projets et positionnements contradictoires sur l'espace public et religieux qui sont plus visibles, mais qui sont aussi répercutés par les médias, l'Internet, les réseaux sociaux. Dans ce contexte-là, ce modèle de tolérance et de vivre ensemble qui a été chanté Urbi et Orbi est désormais ébranlé sur ses bases et a besoin d'être travaillé ou retravaillé pour être perpétué, mais surtout consolidé. Sous ce rapport-là, les acteurs religieux ont été, à travers donc, leurs enseignements, par l'écrit, le verbe, la posture, le comportement et la pratique, les piliers et le ciment de ce que Djamil vient d'appeler le contrat social sénégalais. Dans ce contexte-là, le degré important de religiosité des Sénégalais, qui est au demeurant une donnée incontournable dans toute approche stratégique de développement, doit être considéré dans les analyses. Ce modèle donc s'appuie sur des enseignements des grandes figures religieuses sénégalaises, et ces enseignements se trouvent justement comme des réponses concrètes aux défis actuels de la société sénégalaise, puisque les discours dont j'ai parlé, les écrits, les pratiques sont omniprésents dans l'histoire de ces grandes figures qui avaient chacune une dimension morale, intellectuelle, scientifique et sociale exceptionnelle. Un de nos collègues d'ailleurs dit que le 18e siècle est le siècle des Lumières au Sénégal, en tout cas pour ce qui concerne notre pays, tellement il y a eu cette succession de grandes figures religieuses qui ont aussi produit des enseignements de très grande valeur. Donc c'est en nous appuyant sur tout cela pour perpétuer ce modèle sénégalais que nous avons créé le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Ce cadre est le regroupement des comités scientifiques, des confréries et des associations islamiques wahhabites.
Vous avez une minute.
Oh, wow. Et voilà, donc ce regroupement se donne comme objectif d'instaurer un cadre de dialogue inter-islamique autour de l'islam du juste milieu, de la tolérance, et a suscité plusieurs projets, dont le projet DIAM, qui consiste à produire et à propager massivement des contenus valorisant les précieux enseignements de ces grandes figures religieuses et d'apporter une contribution décisive à la réponse doctrinale dans la lutte contre l'extrémisme et l'obscurantisme. Et évidemment,
je pense de mettre que l'occasion d'échanger pendant.
Voilà, je finis dans le système éducatif à travers un manuel donc sur la paix, la tolérance, l'altérité religieuse, le respect de l'autrui et le pluralisme interreligieux, l'éthique du désaccord et le pluralisme intra-islamique, etc. C'est autour de ces principes-là, de ces axes que nous voulons introduire l'enseignement des grandes figures religieuses dans les écoles comme une des stratégies. Sur les autres stratégies, j'y reviendrai, Inch'Allah. Merci.
Je vous remercie. Je vous remercie, Dr Gay. Je pense que pendant le débat, on aura l'occasion de discuter des différentes initiatives entreprises par le cadre unitaire depuis 2018. Et je cède la parole à Dr Gadou Dakouri, enseignant-chercheur à l'Institut d'ethno-sociologie de l'Université de Cocody Félix Afouette-Boigny de la Côte d'Ivoire, qui va nous parler des initiatives des religieux en Côte d'Ivoire.
Merci. Donc, de la sortie de la violence, l'expérience des religions en Côte d'Ivoire, pays pluriethnique, pays laïque, mais aussi caractérisé par une grande diversité de pratiques religieuses, dominée, du moins marquée par le catholicisme. Cependant, l'islam constitue la religion la plus dominante, avec 42% des fidèles, suivi du christianisme avec 33% des fidèles, et la religion traditionnelle qui compte 23% de partisans. En dehors des sermons et des déclarations ordinaires des leaders de ces religions, beaucoup de leaders sont intervenus bien souvent de façon discrète pour dénouer les crises qui ont pu opposer certaines catégories sociales au pouvoir. Mais aussi, on peut déjà remarquer en 1990, à la restauration du multipartisme en Côte d'Ivoire, la liberté que ces religions ont laissée à leurs fidèles de choisir tel ou tel parti sans pouvoir donner des indications pour telle ou telle préférence. Cette contribution, on peut dire que cette contribution à un pluralisme politique, qu'on peut dire bien compris, a sans doute bénéficié de l'expérience de la tolérance qui marque la grande diversité religieuse en Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. On pourrait y revenir. Mais devant la violence politique de 1990, surtout face aux explosions de violences répétitives à partir de 2002, on va voir apparaître dans l'univers public ivoirien plusieurs fédérations de mouvements religieux. On pourrait citer entre autres le Forum national des confessions religieuses en Côte d'Ivoire, qui naît dans les années 1990, regroupant sous l'initiative de trois confessions religieuses, l'Église catholique, l'islam et l'Église méthodiste. C'est d'abord, les leaders de ces trois confessions s'entendaient entre eux et avec d'autres confessions. Et en 2009, au début, le forum réunit huit confessions. Et ensuite 15, et aujourd'hui il y en a 45. Ouvert donc à toutes les religions en Côte d'Ivoire, ce forum permet à chaque dénomination de se présenter aux autres et de répondre aux questions qui se posent à eux ou qu'on leur pose. Mais le forum va vite se proposer de produire des déclarations communes pour appeler les Ivoiriens au calme quand il y a des éruptions de violence. Bon, on pourrait donner quelques exemples. Un exemple, en 1995, suite aux élections d'octobre 1995, accompagnées de violences et de heurts entre militants, le forum va appeler au calme. En décembre 2000, voyant que dans les mosquées, certains prédicateurs prétendant que la démocratie et l'alternance devraient automatiquement faire accéder un musulman à la présidence, après les présidents catholiques, le forum va se réunir pour faire une déclaration pour apaiser les cœurs. En octobre 2002, suite à la tentative de coup d'État, le forum va produire une déclaration appelant les Ivoiriens à faire triompher l'amour sur la haine afin que le pardon l'emporte sur la violence. En janvier 2010, je vais très rapidement, il va rappeler les signataires des accords de paix et de désarmement à respecter leurs engagements pour que la violence ne prenne pas le dessus. En septembre 2018, rapidement, ils font une déclaration pour appeler à des élections apaisées au niveau des élections municipales et régionales qui devraient avoir lieu en octobre 2018. En tout cas, on peut dire qu'en Côte d'Ivoire, à travers le Forum de réconciliation nationale, lorsqu'il y a des horizons qui pointent à l'horizon, les nuages qui pointent à l'horizon, ces confessions religieuses réunies au sein du Forum national appellent au calme et demandent à ce que les Ivoiriens reviennent à la paix. Et souvent aussi, il faut rappeler...
Une minute encore.
Comment ?
Une minute.
D'accord. Je rappelle rapidement que chaque année, pendant... La présentation de vœux de nouvel an au président, ce forum est invité à prendre la parole. Et le 7 janvier dernier, au cours de cette cérémonie, Monseigneur Toabli, au nom de ce forum, appelait le président et les acteurs à des actions courageuses quant au risque de crise qui pointe à l'horizon de la présidentielle 2020. s'il y a, on peut dire, des actions courageuses au niveau de la réconciliation nationale, des défis restent encore à relever par ces religions, puisque cette réconciliation nationale continue de piétiner. Je vous remercie.
Merci. Donc, nous avons parlé ici, dans ce panel, des différentes initiatives religieuses, en fait, qui vont nous permettre, en fait, de déconstruire, qui vont nous permettre de déconstruire en fait la violence liée à la religion. Et nous avons parlé du cadre unitaire du Sénégal, comme nous avons parlé des expériences en fait en Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais vous poser en fait une question. Comment la religion aujourd'hui peut être considérée comme un mécanisme de stabilisation qui permet d'instaurer et d'installer une sécurité religieuse dans nos régions? Donc, on peut ouvrir le débat et on commence par... Farid et Lasri.
Alors, encore une fois, moi, je vais prendre le biais de l'analyse du discours. C'est qu'on constate aujourd'hui, pour une partie notamment de la question de la violence extrême, qu'il y a un recours au référentiel religieux pour justifier et motiver. Donc, à mon sens, s'il y a un travail, ma place aujourd'hui, c'est pour réfléchir à partir du cadre de ce que propose notamment une institution religieuse qui interagit avec ces questions-là, c'est de prendre à bras-le-corps la question du discours et notamment la question de l'intertextualité, si tu veux, même par rapport aux productions livresques, aux pamphlets, à tout ce qui est produit en termes de sources de référence qui s'appuient sur un background religieux, et notamment là où il faut prendre et le discours à bras-le-corps, mais aussi il faut prendre le taureau par les cornes en allant directement dans le texte. Les versets de l'épée, des choses comme ça. Il y a du référentiel qui nécessite évidemment une réflexion... je dirais renouvelé sur le rapport au texte. Mais il ne doit pas être paramétré, à mon sens, par l'urgence et par la logique sécuritaire. C'est un travail de fond qui doit être dans une logique de pensée, et le temps de la pensée n'est pas le temps de la réponse aux politiques publiques et aux logiques sécuritaires, aujourd'hui à l'impératif qui nous contraint. Sinon, on fait ce que j'appelle souvent auprès de mes étudiants, de la trarbécologie et pas du travail de fond. C'est-à-dire on est à l'écume des vagues et on donne des réponses toutes faites, mais qui n'est pas de la théologie fondamentale. C'est une posture militante, idéologique, ou parfois dans du bricolage où il y a urgence, où on va rassurer. C'est un peu aussi la critique qu'on peut faire parfois, je pense qu'on en a déjà même discuté ensemble, sur les plateformes du dialogue interreligieux. À quoi sert aussi la question du dialogue interreligieux? Est-ce que c'est de la représentation pour des logiques de pacification au travers de photos de famille? On est toujours dans la logique iconique, hein, de rassembler les différentes religions et de montrer qu'à chaque fois qu'il y a une explosion, un phénomène de violence exprimée, on va montrer une question d'unité en termes d'image, ou est-ce qu'on est vraiment sur de la logique fondamentale? Moi, ça fait plus d'une dizaine d'années, notamment, que je travaille avec un rabbin et un pasteur protestant sur ces questions-là. Et notamment, l'idée, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout de faire de la figuration, travailler ensemble à aller sur ce qui nous rassemble, mais vraiment sur des éléments de fond, sur comment déjà tu développes ton référentiel par rapport au texte, comment tu penses le texte de l'intérieur. C'est-à-dire que, pour ça que je parlais tout à l'heure en introduction de la question de la confiance, de la question de l'amitié, mais aussi de la question de l'exigence et de la rigueur. Et ce temps-là n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en observant notamment les acteurs et le leadership religieux, il peut s'inscrire dans des logiques de recroqueviment que l'on ne comprend pas médiatiquement, mais que l'on peut comprendre quand on est dans la logique de la pensée profonde. Une logique de recroqueviment, c'est-à-dire qu'on nous assène notamment à donner des réponses. On a déjà les réponses qu'on attend sans respecter quelque part le processus de réflexion fondamentale qui doit se faire, et notamment aussi la réflexivité du théologien dans son exercice direct dans son rapport au texte. Donc comment il doit penser la notion de violence face à un corpus qui est aussi riche d'expression, de recours à la force, de recours à la violence, voilà. Donc déjà, cette première dimension. La deuxième dimension, à mon sens, c'est aussi la démocratisation de l'accès à cette logique et à ces voies alternatives. Je pense que ce n'est pas tant qu'il n'y a pas de penseurs, de théologiens, et plus depuis que je suis notamment dans, en contact avec ce qui se fait aussi, avec la Zaytouna, avec d'autres ici, avec des institutions qui font de la théologie fondamentale. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se développent et il y a une insuffisance en termes de visibilité. Donc, il y a un déficit de communication. Donc, je pense que déjà montrer que ça existe, moi, je vois souvent, même dans des, avec des collègues bon, anthropologues ou d'autres, etc., quand on dit, ils me disent « Ah bon, ça existe, et ils sont où ces gens-là » c'est une problématique fondamentale. Et puis, évidemment, la question telle qu'elle a été posée tout à l'heure, même par rapport à l'écologie, quand j'en faisais mention, il y a aussi ce pas de côté de la pensée profonde, c'est aussi de prendre en compte la dimension sociologique. C'est qu'aujourd'hui, le religieux donne du sens, encore pour beaucoup de monde, et donc, fondamentalement, ça peut percoler auprès des auditoires en développant des discours qui peuvent montrer de l'intérieur du référentiel des autres manières de produire et de faire sens. Et ça doit être un discours qui n'est pas un discours moraliste, religieux, supplémentaire qui viendrait se greffer à déjà une forme de saturation de discours existant, mais c'est un discours qui doit être en même temps articulé au référentiel et qui doit proposer une approche complexe des réalités. Donc qui doit prendre à bras le corps toutes les problématiques telles qu'elles se présentent aujourd'hui dans un paysage qui est complexe. Et ça, ça nécessite aussi, à mon sens, peut-être de sortir des répliques paramétrées par le référentiel à l'identitaire exclusivement, notamment pour le cas du religieux, et donc de développer des pistes dans ce sens-là. Mais bon, voilà, on pourra y revenir.
Merci Farid. Je pense que Djamil a un mot à dire par rapport aussi à la question de la... comment...
Qu'est-ce qu'il fait dire ça? Non, alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faut, inverser la question. Parce que si on essaye de tout résoudre par la religion, on ne va pas y arriver. Pourquoi? Moi, à titre personnel, par exemple, d'un point de vue culturel, je suis beaucoup plus proche de ce qu'on appelle un tiédo sénégalais que d'un musulman marocain ou indonésien. D'accord. Et si on rentre dans... en fait, on sait qu'on les appelle des tiédos. C'est la religion, les adeptes de la religion traditionnelle, pour ne pas dire animiste, un terme qui ne veut rien dire en fait. Animiste, ça a été forgé par des gens qui s'ennuyaient, je pense, à un moment donné. Mais bon, du coup, d'un point de vue culturel, je suis plus proche de... même pas un jeune, de quelqu'un qui est adepte de la religion traditionnelle africaine que d'un musulman indonésien et ou marocain. Et du coup là, il faut, il y a quelque chose que je dois qu'il faut même si Kalbi Maghribi en arrivant dans la Jaïdan, même, et là ça va nous pousser à une autre question. Du coup, il y a une logique qu'il faut, je pense qu'il faut casser, parce qu'il ne tient pas la route, cette logique de la umma. Parce que si on rentre dans ça, ça nous pousse à quoi? Quelqu'un va être plus sensible, par exemple, même s'il est sénégalais, à la question palestinienne, qu'aux Africains qui se font massacrer en République Centrafrique, ou bien qui sont vendus en Libye. Je suis très concerné par la Palestine, mais aussi par ce qui se passe en Libye. Et j'observe, c'est que cette solidarité religieuse, parfois, peut mener à des impasses. Une fois qu'on a dit ça, du coup, il faut inverser la question, c'est-à-dire comment, en tant qu'homme, être humain, on peut penser ensemble, faire des choses ensemble, concrètement, pour nouer du lien. Parce que la principale question, c'est la question de l'altérité. Si je change le regard que j'ai sur l'autre, ça va changer la manière dont je vais le penser, la manière avec laquelle la manière dont je vais le traiter aussi. Du coup, il y a ça, il y a aussi autre chose que je voulais dire, mais qui est en train de m'échapper de l'autre côté. Oui, je parlais des actions concrètes. Oui, c'était le dialogue interreligieux, mon ami. Pour moi, le dialogue interreligieux, dans une certaine mesure, ça ne sert strictement à rien pour le bon vivre ensemble. Même si j'ai été militant du dialogue interreligieux, je vous le dis pourquoi. Mettez un imam ici, un rabbin là, pour qu'on parle de la divinité de Jésus. On parle jusqu'à demain. Après, bon, on va se mettre d'accord. Bon, pour toi, Jésus, c'est le fils de Dieu. Pour moi, c'est pas le fils de Dieu. Et une fois qu'on sort de la salle. Concrètement, qu'est-ce que ça peut nous apporter pour le bon vivre ensemble? Rien, à part des spéculations intellectuelles et rationnelles. C'est pour ça qu'il faut faire des choses concrètes. Tu as parlé de l'écologie, Sam, oui?
Oui, parce qu'en parlant des choses concrètes, je voulais demander à cher...
Oui, juste une seconde, je finis ça. Si on fait des choses concrètes, c'est-à-dire, imaginons, on organise un don du sang ensemble pour sauver des vies. Là, non seulement vous aurez des chrétiens avec vous, des juifs avec vous, des musulmans avec vous, des athées avec vous, des hindous avec vous et des personnes dont vous n'avez aucune idée de la religion à laquelle ils font partie. Et là, ça va permettre de nouer des liens en fait, qui vont passer par l'homme et non pas par le religieux. Même si il faut faire ce travail théologique qui me semble nécessaire et important, mais quelqu'un qui a envie de massacrer quelqu'un, tu reformules le Coran, il va chercher dans l'Ancien Testament de quoi légitimer son acte. Cela n'est pas le problème, je pense. Okay.
Je pense que cher Kay va nous parler des initiatives concrètes que vous avez faites dans le cadre unitaire depuis 2018 sur le terrain pour la déconstruction du discours lié à la violence religieuse. Oui. Oui, donc je disais, en fait, vous allez nous parler des différentes initiatives qui ont été entreprises par le cadre unitaire depuis 2012, en fait, sur le terrain. Qu'est-ce que vous avez fait pour déconstruire, en fait, ce discours religieux lié à la violence?
Oui, quand vous avez posé la première question, je me disais qu'il fallait à la fois montrer, effectivement, qu'aujourd'hui, on considère le religieux, et l'islam en particulier, comme un facteur de déstabilisation. Chez nous, il a été un facteur de stabilisation, un facteur parmi d'autres, mais un facteur moteur, un facteur très important. Et justement, ce que nous recherchons à travers le cadre unitaire, justement, on l'a appelé cadre unitaire de l'islam au Sénégal, stratégique et opérationnel. Parce qu'on pense qu'il peut être un levier de transformation de la société. Mais à travers quel domaine, quel axe? Nous pensons que l'éducation, l'un des facteurs de division au Sénégal, l'une des fractures, c'est la fracture du système éducatif. Avec Bakary, on y a beaucoup travaillé à travers un groupe de recherche sur l'éducation. Beaucoup de frustrés, puisqu'il y a un système éducatif que l'État soutient, finance, et puis il y a un système éducatif que l'État discrimine, il faut le dire clairement. Et ce que le cadre unitaire essaie de faire, c'est justement de travailler à ce que ces deux systèmes se rejoignent, se tendent les bras, et que les contenus soient aussi alimentés par un discours religieux positif, pacifiste, qui tire des références locales et non pas des références étrangères pour l'esprit de paix, l'esprit de tolérance. C'est ce que nous pensons vraiment très, très important. Mais on regarde aussi tous les autres facteurs de division des musulmans et on y travaille. Par exemple, sur le croissant lunaire, une question très difficile dans tous les pays. Et il y a deux grands courants, plutôt les soufis et les wahhabis là-dessus. Là aussi, c'est le principal facteur de division. Et on a quand même réussi à mettre en place un cadre commun entre wahhabis et soufis pour l'observation du cadre du croissant lunaire, ce qui est très très difficile, tellement difficile que même quand l'État a entendu ça, il nous a invités à faire le séminaire au ministère de l'Intérieur. Un autre aspect qui nous semble important, c'est le fait de prévenir les propos offensants qui peuvent être, comme on l'a vu avec les dessins de Jeune Afrique et tout ça, créer des gros problèmes dans nos pays quand on insulte un marabout, quand on fait un dessin assez, comment on dit ça, une caricature et tout ça, ça peut exploser. Et donc, le fait de faire une prévention de ce type de... Donc, nous sommes actuellement, au moment où je vous parle, en partenariat avec Facebook, Inc., par exemple, pour surveiller l'espace Facebook sénégalais pour qu'il ne génère pas des conflits, des propos offensants d'une confrérie ou de personnes contre les autres. Voilà, il y a des mécanismes comme ça. Et vraiment, c'est du concret. Ce n'est pas que du positionnement ou de la représentation. On est ensemble, mais c'est pour faire des choses concrètes. Et l'une des principales stratégies, c'est encore une fois l'introduction des enseignements de paix et de tolérance du vivre ensemble sénégalais dans le système éducatif du niveau élémentaire jusqu'au supérieur.
Vous avez parlé de surveiller sur Facebook les discours religieux liés à la violence, mais comment vous le faites? Est-ce que vous avez des mécanismes en fait?
Alors, ce qu'on va faire pour le moment, on l'a fait autour des élections, puisqu'il y a eu des élections au Sénégal récemment. Et Facebook était venu aussi pour sécuriser, c'est-à-dire pour que ces élections-là ne soient pas influencées, comme on l'a connu peut-être, je ne suis pas sûr, aux États-Unis ou ailleurs, que ces élections-là ne soient pas influencées par des discours, par des actions de lobby ou d'autres. Et justement, nous construisons actuellement un partenariat avec eux sur l'éducation au numérique et pour que justement le numérique ne serve pas à générer des conflits, mais au contraire qu'il serve à prévenir ces conflits. Et ce qu'on va mettre en place, c'est un peace room, c'est-à-dire une sorte de mécanisme de surveillance, puisque Facebook, avec ses algorithmes et tout ça, peut effectivement surveiller les mots qui blessent et tout ça en français ou en anglais, mais il ne peut pas le faire en Wolof. Il ne peut pas le faire dans nos langues nationales. Donc, aider Facebook aussi à nous aider à surveiller notre réseau social, c'est aussi un des mécanismes par lesquels nous travaillons.
Je vous remercie. En parlant toujours du religieux, docteur Gadouri, vous avez parlé des initiatives religieuses en Côte d'Ivoire pour sortir de la violence. Est-ce que c'était suffisant, en fait, ces initiatives religieuses?
Ce que ces religions ont mené comme action, notamment des actions, des déclarations, mais il y a aussi des actions de prières communes, de conférences, des journées de dialogue interreligieux. Mais généralement, c'est un discours descendant. Et quand on regarde au niveau micro, j'ai l'impression que ce discours descendant appelant à la paix ou à la prévention de la paix ou à la maintenance de la paix ne prend pas, notamment après cette guerre, après cette situation de crise, parce qu'il y a encore des personnes qui ressentent comme victimes, qui sont victimes de cette crise et qui ne pardonnent pas le voisin. Donc ce discours descendant n'imprègne pas réellement les comportements individuels. C'est tout le problème. C'est normal. Le religieux ne peut que prôner la paix, puisque toutes ces religions enseignent la paix. Tu ne tueras pas, la religion traditionnelle, la sacralisation de la vie, ne pas verser le sang. Donc, toutes ces religions ont un même dogme et qu'ils ne peuvent l'enseigner. Mais généralement, c'est un discours qui descend et le bas, il n'y a pas d'initiative, si vous voulez, concrète au niveau des chrétiens, des musulmans ensemble. Dans mon quartier, par exemple, quand tu es chrétien, que tu parles qu'un musulman arrive, tu te tais depuis cette situation de guerre. Oh, avant, il y avait une coexistence pacifique, mais la dernière crise, a commencé à exacerber la situation. Et les élections prochaines de 2020 commencent aussi à envenimer les choses. C'est pourquoi nous appelions tout à l'heure, nous attirons l'attention sur la réconciliation au niveau national, qui, du point de vue des religieux, c'est vrai, ils dénoncent qu'il y a un nuage à l'horizon, mais des vraies actions du point de vue de l'Église ou de l'islam qui sont menées, nous croyons qu'il y a encore un défi sérieux à relever à ce niveau-là, en tout cas pour la Côte d'Ivoire.
Je vous remercie, docteur Dakoury. Je pense qu'on peut commencer le débat avec la salle. Et je vous propose en fait de commencer par trois séries de questions. Chaque série contient trois questions. Et puis, on continue. On donne la parole aux intervenants et on continue avec la deuxième série et puis la troisième série. Donc, je commence. Et s'il vous plaît, soyez bref et concis et direct dans vos questions. Donc, je commence par M. Reda Bounkiré. Donc,
Oui, merci. Je n'ai pas vraiment une question, mais une incitation à penser tous ensemble, parce que c'est quand même un atelier où on travaille de manière collective. Le religieux et la non-violence, c'est vraiment un défi. Monsieur Dozon, ce matin, a bien fait d'évoquer que ça se passe dans toutes les religions. Le religieux aujourd'hui est radioactif, est explosif. Et nous, différents chercheurs ou représentants d'ONG engagés dans le dialogue religieux ou le travail humanitaire, nous sommes des sortes de démineurs. Nous avançons sur des terrains minés. Le religieux est explosif. Et donc, on peut voir qu'il faudrait quand même déconstruire un certain nombre de représentations naïves. Le religieux contemporain, il y a de la violence, mais il y a toujours de la violence dans le religieux. Et si nous devons faire un travail, disons, par exemple, sur le cas africain, il faudrait, par exemple, essayer d'éviter une vue un peu classique de présenter un islam pacifique, ouvert, tolérant, non politique, par exemple, en l'excellence, le soufisme ou le confrérisme, en opposition à un mauvais islam qui serait l'islam politique, l'islam salafi, le wahhabisme. Il faut voir que, par exemple, dans l'histoire, au XIXe siècle, le jihad a été mené par des mouvements soufis. Et donc, il y a une continuité. C'est pour ça qu'il ne faut pas diaboliser les jihadistes. Si nous voulons travailler sur la sortie de la violence, il faut réfléchir sur ces questions.
Je vais vous interrompre, je pense que mon collègue Jamil a parlé de ça.
Tout à fait, tout à fait. Donc, mais c'est important parce que, par exemple, Boko Haram, ou bien des gens les mouvements Mujahou ou Akmi se réclament d'expériences théocratiques qui ont été menées au XIXe siècle par des mouvements soufis. Et je dirais que les mouvements soufis en Afrique a joué le rôle au XIXe siècle, pour faire un peu de manière caricaturale, a été les mouvements islamistes de l'époque. Si vous prenez, cher Ahmadou Bamba, à la fin du XIXe siècle, ils font de la Mouridia, la croissance de ce mouvement, aujourd'hui c'est des millions de Sénégalais, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec les mouvements salafistes, wahhabistes. Alors je dirais qu'aujourd'hui, c'est ça la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas, disons, diaboliser certains courants, même si sur le plan théologique, sur le plan de la pensée, moi je vois une crise partout à l'œuvre. C'est-à-dire que je vois que nous avons de nouvelles expressions de la religion, violentes, capitalistes, marchandes, dogmatiques, exotériques, mais que la crise et les défis du rapport à la violence, du rapport à la société, les nouveaux défis, la question de la femme, la question du rapport au pouvoir, la question du rapport à savoir, touchent tous les courants et expressions de l'islam. Et c'est ça la difficulté. Et enfin, je pense qu'aujourd'hui, un citoyen responsable, un intellectuel, un théologien du XXIe siècle, en tout cas qui travaille sur la question islamique, doit faire le travail même en amont, au début de l'islam. Parce que la violence, il faut faire un travail de lecture historique et développer une réflexion critique, parce que la violence s'est inscrite dès le début de l'islam. Dès la mort du prophète, sur les 4 califes bien guidés, 3 sont morts par violence politique. Donc il nous faut aujourd'hui reprendre ces textes, puisqu'on nous demande de regarder le passé, et de proposer une lecture qui puisse désactiver cet aspect de la violence dans le cadre d'une société ouverte, démocratique et pluraliste.
Oui, je vous remercie. Une deuxième question, s'il vous plaît, puis on donne la parole à une deuxième, une troisième question et on donne la parole aux panélistes pour répondre.
Merci. J'ai juste une constatation et bien sûr suivie d'une question très rapide. D'ailleurs, je confirme en tant que voisin mauritanien que la religion au Sénégal et confrérie régule admirablement bien le jeu social et qu'effectivement, nous autres voisins, c'est ce qui nous manque dans cette violence relativement récurrente, ou du moins de plus en plus récurrente dans la région. Mais là, ma question est la suivante. Est-ce qu'éventuellement, il ne pourrait pas y avoir une instrumentalisation de cette donne qui est restée de qualité en tant que stabilisateur, une instrumentalisation du pouvoir politique, par exemple, dans le cas du Niguel, quand le marabout dit « votez tel », il ne votait pas tel. C'est juste ma question en tant que voisin et sans rancune.
Merci. Une troisième question, une dernière troisième question dans cette première série de questions. D'accord. Madame.
Oui. Ma question est très brève. Donc, quel rôle aujourd'hui pour la religion dans une société qui ne s'est pas désinvestie de ses mythes et de ses discours hégémoniques et qui refuse d'ouvrir le champ herméneutique quand il s'agit, aujourd'hui je parle ici de la société marocaine, de la polygamie et de l'héritage. Merci.
D'accord, je vous remercie. Donc, on va donner la parole aux panélistes. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur le commentaire d'abord de Reda Benkirane, et puis la deuxième question de monsieur sur l'instrumentalisation du pouvoir politique. Oui, l'instrumentalisation de la religion par le pouvoir politique, et puis le rôle de la religion, du courant religieux. D'accord. Et puis la troisième question, quel rôle de la religion de l'héritage et la polygamie. Donc, je donne la parole à Djamil.
Merci beaucoup. Oui, je pense, cher Benkirane, je l'ai un peu dit tout à l'heure, parce que comme on avait 5 minutes, il fallait vraiment faire un résumé d'un travail qui a pris beaucoup d'années. Mais c'est vrai que, même si on regarde aujourd'hui les mouvements Katiba Massina, par exemple, je pense qu'après Bakary, qui a un peu fait beaucoup de terrain sur ça, pourra le confirmer. En fait, il y a des gens qui sont des tijans là-bas, dans le Katiba Massina, qui fait beaucoup de problèmes. Ce qui fait que cette division, salafisme méchant, alors que bon, d'ailleurs, des chercheurs nous disent qu'il y a plusieurs salafismes, même si entre le salafisme quiétiste et le salafisme djihadiste, à mon avis, le point de passage est très fin. Mais effectivement, il ne faut pas faire ces distinctions, parce que historiquement, ça ne tient pas la route. Et même intellectuellement, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce que beaucoup de gens semblent ignorer, c'est que le soufisme peut être un courant mystique. Sauf que je pense que tous les Marocains qui ont étudié Ibn Ashir, ça commence par dire « Fi aqd al-Ash'ari, wa fiqh malik, wa fi tariqat al-Junayd al-Salik ». Il y a un triptyque théologique, juridique et mystique. Le problème des études sur le soufisme, c'est qu'on s'attarde sur le côté mystique en oubliant le côté juridique et le côté théologique. Sauf que la plupart des musulmans africains sont des malikites. Et du coup, sur leur rapport au djihad, ils vont s'inspirer du malikisme. Le malikisme, qui sur le djihad, n'a pas de différence avec le salafisme, en fait. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il faut les appeler à la religion. S'ils refusent, il faut qu'ils payent la jizya, la taxe. S'ils refusent, dans ce cas, il faut faire le combat. Et s'il y a des prisonniers, ça, après, c'est l'esclavage. C'est-à-dire qu'on le trouve dans le malikisme et dans le salafisme moderne. Mais le problème, je pense que c'est les spécialisations aujourd'hui académiques qui créent des lignes de fracture qui n'existent pas si on creuse en profondeur. Maintenant, sur l'instrumentalisation de Gofri, ça, je pense que je vais laisser à Sergueï, mais effectivement c'est une crainte qu'on peut reformuler, même si la dépendance absolue des confrères, des disciples, des talibés aux chefs confrériques reste à prouver, parce que à titre personnel, je peux faire partie de la Tijaniya, mais pour les Mourides, lui il est Mouride. Après, tu vois, tout continue après. Je pense qu'il y a des dynamiques à l'intérieur même des confréries qui font que il n'y a pas une dépendance absolue et que parfois les négales ne marchent même pas les fois où ça a existé. Sur le discours hégémonique, oui, ça je suis d'accord avec vous. Je pense que, mais le problème est très profond. Si on rentre dans les débats, est-ce qu'il faut repenser cette question, on ne va pas y arriver. Moi, j'opte pour la sécularisation, on l'avait dit tout à l'heure, et pour le droit positif. Vous voyez, parce que le problème des religions, c'est qu'on est dans ce que Homero Marron Gio Pereira appelle le paradigme hégémonique. Et quand la religion est dans un paradigme hégémonique, c'est-à-dire qu'il y a une vision totalitaire sur l'homme et sur ses pratiques et sur ses actes, les libertés ont peu de marge de manœuvre. Alors oui, il faut du droit positif. Je suis un laïcard acharné. Je sais que ça ne va pas arranger beaucoup de femmes. Mais moi, je suis pour la criminalisation de la polygamie. Je suis favorable. Je l'ai dit une fois, ça avait énervé beaucoup de monde, mais je suis favorable. Le problème, c'est que les femmes sont plus nombreuses. Du coup, c'est un argument aussi qu'on tient. Et que si on fait ça, il y a beaucoup de femmes peut-être qui vont avoir des soucis. Mais moi, je suis pour la criminalisation de la polygamie et pour une juste répartition de l'héritage. Aussi, ça, je suis sur ça. Je finis juste une seconde sur ça. Parce que ma grande sœur travaille à l'université. C'est elle qui parfois me fait vivre et ce n'est pas moi. Du coup, je ne vous verrai pas pourquoi, le jour où on fera le miracle de ma mère, c'est moi qui vais hériter de mieux plus qu'elle. Je ne vois aucune raison valable à ça.
Merci, Djamil. Et on donne la parole à Cherguey pour répondre.
Oui, d'abord, sur la contribution de M. Benkirane. En tout cas, si je regarde le cadre unitaire dans sa genèse, et dans le contexte, dans son contexte de naissance, on est dans le cadre de la justement criminalisation du djihadisme, du discours djihadiste, et même les gens qui étaient considérés comme wahhabis au Sénégal cherchaient aussi un refuge, donc pour sortir justement de cette stigmatisation djihadiste, ils sont considérés comme wahhabis modérés. Ils ont organisé des forats sur la wasatia et tout ça. Et d'un autre côté, chez les soufis, il y avait aussi une volonté de construire un discours, une réponse doctrinale à l'extrémisme et au discours djihadiste, qui était aussi un peu partout sur Internet, dans les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est ce besoin de juste milieu qui a poussé les djihadistes et les gens des confréries à se mettre ensemble et justement à travailler sur justement leur convergence, les choses sur lesquelles ils peuvent se mettre d'accord. Et je pense que c'est une démarche qui est aussi génératrice de stabilisation. Et c'est sur cette vague-là que nous avons surtout surfé pour créer ce cadre unitaire. Sur le Ndigal, là aussi, il y a eu beaucoup de choses dites dans les années 80-90 qui progressivement ont d'abord évolué et certains se sont aussi avérés fausses. Bon, le Ndigal, c'est d'abord une sorte de consigne de vote qui est, d'un point de vue politique, hein, c'est une consigne de vote donnée par un marabout à ses disciples, donc globalement. Mais avant ça, c'est d'abord la consigne, en tout cas la soumission presque aveugle d'un disciple par rapport à son marabout. Et le fait que le disciple doit exécuter justement cette consigne, toute consigne, qu'elle soit qu'elle ait une signification politique, qu'elle ait une signification économique, qu'elle ait une signification religieuse. Et donc, traduit d'un point de vue politique, ça a donné effectivement dans les années 80 des consignes de vote d'une autorité centrale, d'une confrérie à tous ses disciples. En disant, voilà, si vous ne votez pas pour tel candidat à la présidentielle, vous avez trahi la confrérie à laquelle vous appartenez. Depuis lors, les choses ont vraiment évolué, puisque d'abord, au niveau des centres des confréries, on ne donne plus de consignes de vote. Mais en plus, depuis lors, l'espace civique s'est tellement ouvert, l'espace citoyen s'est tellement ouvert, les réseaux sociaux, l'Internet et tout ça, que les gens sont beaucoup plus tournés vers leur propre choix. Et donc, le Ndigal a beaucoup perdu de sa force. Et donc, il n'est plus un élément central dans le jeu politique sénégalais. Maintenant, ça ne veut pas dire que le religieux n'est pas un élément très important. Les appartenances religieuses, confrériques, continuent à surdéterminer le jeu politique, les jeux d'alliance, d'appartenance, et ce n'est pas près de se terminer, je crois.
Est-ce que vous...
Oui, oui.
tu vas rebondir sur une des questions.
Merci. Juste à mon sens, poser le débat dans le cadre d'une réflexion partagée, donc dans l'esprit d'un workshop actif, moi je ferai attention à des formes d'islamisation de l'assassinat des trois premiers califes. C'est-à-dire que je distingue, si vous voulez, quand on parle d'islam, on parle d'islam. L'islam, ce sont une série de principes, une série de références, du texte. C'est pas une expérience historique. Moi, je le fais d'ailleurs avec mes étudiants, je désacralise d'expériences historiques. Il y a la mort du prophète de l'islam a marqué une forme de rupture très intéressante dans la manière de développer son référentiel au religieux et notamment son référentiel à l'islam. Donc quand on va parler d'expérience historique, il y a une expérience évidemment qui nécessite une réflexion fondamentale de quoi on parle lorsqu'on parle notamment de 15 siècles d'histoire d'islam. On parle évidemment d'une expérience développée dans un champ dit du religieux et pas de l'islam dans ses principes en tant que tel. Non. On est dans le champ de l'interprétation, du rapport au texte, etc. Et lorsqu'on va parler de la réalité contemporaine, on va parler d'un religieux contemporain qui est paramétré par l'environnement de la réalité contemporaine. La logique de la sortie de la géographie du religieux, la logique de l'accélération, la logique de l'hypermodernité qui se pratique aujourd'hui dans la réalité du monde, la logique de la marchandisation, on parle de l'islamic brand, on est dans des logiques de marque, de référence, etc. Donc ce qui me pose évidemment moi un problème, même avec mes amis et collègues sociologues parfois, je leur dis attention à l'étiquetage. Moi je connais des salafistes qui fréquentent des zaouïes soufis et qui se retrouvent dans des soirées de hard rock metal. Qu'est-ce qu'on fait? Je le mets dans quelle catégorie? Donc, vous comprenez, on a affaire évidemment à des trajectoires identitaires complexes. Et donc, la question de la catégorisation de bien ou de mal, je suis d'accord avec toi, c'est une attention aux postures moralistes et de distribution, de dire là c'est bien, là c'est pas bien. Mais attention également à dire de toute façon, il y a du mal partout. Et c'est problématique partout. Donc moi j'aimerais qu'on reclarifie évidemment d'un point de vue fondamental les termes et qu'on traduise également, on parlait effectivement le fait qu'il y ait des barricades parfois disciplinaires, mais je crois que parfois c'est aussi intéressant de clarifier de quoi est-ce que nous parlons. Lorsque nous parlons d'une expérience historique fondamentale, tout à l'heure moi je parlais des textes, donc je parlais des textes et je m'intéressais à ceux qui développent une approche herméneutique du texte, une réflexion sur le texte. Et donc, c'est les narrations qui vont en découler. Donc, j'analyse, je critique, je mets en perspective des intelligences qui pensent et qui réfléchissent. Mais on peut, évidemment, écarteler le... Et ce qui va m'intéresser aussi dans l'approche, notamment de ce qu'on appelle... Moi, j'ai un glossaire, et mes étudiants le savent, que j'appelle le glossaire des termes SDF, c'est-à-dire sans définition fixe. Et le terme salafiste en fait partie, comme charia, etc. C'est, voilà. Donc, là, quand je vais parler, moi, notamment de l'expérience salafiste ou le wahhabisme, etc., je pense que c'est vrai, vous avez raison, il ne faut pas être dans un angélisme d'un côté, pas dans une diabolisation à tout va de l'autre, parce que ce qui va m'intéresser, moi, peu importe ce qu'il pense, ce qui va m'intéresser, c'est presque une posture conséquentialiste, ce qui va découler à partir du discours et de ce qui va se développer, peu importe à ce moment-là, s'il est soufi, salafi ou jeune délinquant qui tout d'un coup il a des spasmes d'une révélation soudaine et qui va passer à l'action. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Dans la logique de la violence, il peut y avoir évidemment la production latente d'un discours qui peut véhiculer des formes de violence, mais elle m'intéresse à partir du moment où elle passe ici à l'action. Et c'est ça que nous devons, à mon sens, saisir et prendre véritablement à bras le corps. La deuxième des choses, j'en ai fait mention un peu tout à l'heure sur la manière dont il peut y avoir des postures de recroquevillement de ceux qui sont les mains dans le cambouis dans le texte et qui parfois me disent il y a des pistes de réflexion sur le champ du religieux, il y a des latitudes, il y a des fatwas, il y a des héritages avec lesquels on peut évidemment avancer. Vous avez souligné deux thématiques, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le problème, c'est qu'il y a parfois des logiques de statu quo où on se dit on ne peut pas le faire parce qu'il y a des injonctions de l'autre côté. Et donc je pense que, parce qu'il y a aussi le bras de fer, on parlait tout à l'heure soufisme wahhabisme, mais aussi posture moderniste ou laïque, machin, et de l'autre côté religieux, tradition, etc. Il y a des bras de fer de ce côté-là. Et donc à mon sens, je pense qu'il y a une carence d'un leadership aujourd'hui qui est dans des logiques de médiation, de créer des zones de confort à l'intersection de ces univers-là et de développer finalement des compréhensions réciproques. Parce que tu parlais tout à l'heure du concept d'altérité, on constate les altérités, mais comment transcender, comment dépasser ces mécanismes-là? Et surtout, encore une fois, serrer les temporalités. Il y a une attente sur des questions, mais il y a aussi le temps, évidemment, de la réflexion théologique fondamentale et le champ de la confiance. Et cette construction d'un climat de confiance qui va permettre de faire avancer le débat est plus qu'une urgence aujourd'hui. Je pense que c'est vital et on ne soupçonne pas à quel point, à mon sens, de ce que j'ai pu observer dans les coulisses, parce qu'on me dit aussi beaucoup de choses. On le dit à toi, mais voilà, parce qu'on a confiance. Mais on ne peut pas l'annoncer comme ça publiquement, parce qu'on sait les polémiques que ça va susciter, etc. Donc ce n'est pas tant l'incapacité de réfléchir le texte, c'est l'incapacité aujourd'hui de produire un contexte favorable qui va pouvoir permettre de faire émerger une série de conclusions qui sont déjà pour une bonne partie des chantiers réfléchis.
Je te remercie Farid et je pense qu'on va continuer le débat à travers une deuxième série de questions pour essayer de trouver un domicile fixe en fait pour tous les concepts et liés à la religion et l'effervescence religieuse que nous traitons aujourd'hui. Donc je commence par une deuxième série de questions et madame.
Oui. Merci de me donner la parole et merci également aux présentateurs. C'est juste une petite question pour le docteur Gay, cher Gay. Docteur, avec le cadre unitaire, vous avez fait jusque-là un très bon travail. Et vous avez pris en compte également la spécificité du Sénégal. Et les prières, les liens de parenté, vos publications ont préservé jusque-là le Sénégal de l'extrémisme violent. Mais quelles sont les stratégies et actions que vous allez mettre en place pour atteindre ce jeune sans emploi, ce jeune chômeur qui est dans le quartier, qui est dans son milieu, qui ne travaille pas, et qui n'a pas la chance de vous entendre dans des tribunes comme celle-ci, ou de lire vos publications? Qu'est-ce que vous prévoyez? Quel est le travail que vous allez faire pour atteindre cette cible qui est très sensible?
Merci. Une deuxième question? D'accord.
Merci. Je vais rebondir un peu à partir de la question de notre collègue Madame Cham, parce que parmi les radicalisés, si on peut avoir deux groupes comme ça, hein, c'est vraiment schématique ce que je dis, il y a ceux qui sont en quête de chance et ceux qui sont en quête de sens. Le jeune chômeur qui est allé rejoindre Boko Haram parce qu'on lui a donné une moto et 300 000, il est en quête de chance économique. L'autre jeune bourgeois d'une famille, bon, je caricature, catholique, etc., qui manque de rien mais qui va chez Daesh, il est en quête de sens. Ma crainte maintenant sur les confrères, et j'adresse la question à mes collègues, est-ce qu'à force de diriger les confréries comme étant un système à l'institutionnalisant, en faisant la promotion, on n'est pas en train de les inscrire dans le système? Parce que les jeunes, Si la religion, quel que soit le type de religiosité, si on l'institutionnalise, les jeunes vont finir à dire, ah, d'accord, c'est le moins de l'État, ils sont tout le temps avec les hommes politiques, ils sont dans le système, ils ont les mêmes avantages. Finalement, ils vont les ranger dans le système. Et en les rejetant, ils vont aller chercher d'autres modes de religiosité. La preuve, au Sénégal, dans une interview dans Le Monde, je disais que c'est quand même un truc effarant qu'au Sénégal, la chaîne, disons, ouais, salafiste, qui est la plus salafiste, Iqra, est commercialisée par Canal+. Ce n'est pas un hasard. Ils ont fait une étude de marché sur une population classe moyenne, moins bourgeoise, qui a un certain nombre de besoins en termes de religion, que ne satisfont pas les confréries, qui sont muséalisées, touristisées, quoi, très jolies, on les visite, il y a les derviches, il y a les chants, ils sont beaux, ces soufis. Et que les jeunes qui sont en quête de spiritualité sont en contact avec d'autres types de discours, par l'Internet, etc. Mais j'ai bien peur que les confréries soient dépassées sur cela, si on les institutionnalise trop, qu'on les considère comme étant faisant partie du système. Et si on les laisse dans la tradition comme un objet de musée à préserver, qu'ils soient dépassés et que les jeunes s'ouvrent à d'autres types de religiosité comme le salafisme qui sait bien utiliser la modernité technologique pour mieux combattre la modernité sociale, mais qui attire beaucoup plus avec ses méthodes. Sur ce, je pense que les confrères bon, sont très bien au Sénégal, ils ont participé beaucoup à la stabilisation.
Je vais t'interrompre, mais ils ont... Carrie, c'est quoi la question ?
Ma question, c'est que, est-ce qu'à force de considérer les confréries comme un patrimoine à préserver, un objet de musée, entre guillemets, on les condamne pas dans l'archaïsme, etc. La deuxième question, c'est que, est-ce que si on continue à les promouvoir, parfois par le jeu de politique, hein, en affaire un islam officiel à promouvoir, etc., est-ce que les jeunes ne vont pas finir par les considérer comme faisant partie du système qu'ils combattent, le système politique, et en ce moment-là, se tourner vers d'autres modes de religiosité qui sont beaucoup plus contestataires. Merci.
Merci. Une dernière question dans cette deuxième série de questions.
Oui. Merci à vous. Je voulais vous poser une question concernant cette violence. Il y a Albert Camus qui a dit dans son livre « L'homme révolté », qu'est-ce qu'un homme révolté ? C'est un homme qui dit oui. Oui, car en amont de ce oui, il y a un non à la révolte. Du coup... Lorsqu'on lit le Coran, par exemple, il y a des versets où il y a une incitation au djihad. Et le fait de fermer les yeux de ces interprétations forme un discours de double sens. En ce sens, monsieur Lesselé, vous qui êtes un très grand anthropologue, vous avez parlé tout à l'heure du temps, du rapport au temps. Donc comment pourrait-on faire émerger un discours ou bien un prélèvement qui donnera un sens, pour rebondir à cette question, un discours lorsque l'islam subit une double interprétation étatique de l'État qui donne un discours religieux et de celui individuel qui est de chacun et voilà. C'est-à-dire comment faire émerger un discours qui sort de cette représentation du djihad et qui pourra être entendu par la plupart des gens. Merci à vous.
Merci. On donne la parole aux intervenants pour qu'ils puissent rebondir sur les différentes questions posées. Donc, on commence par Farid.
Alors, vraiment très brièvement, vu que le temps avance. Je pense que Bakary, il faut tenir compte aussi sur le fait qu'il y a déjà des dynamiques et des réalités dans le champ confrérique où on pense à des... Il y a déjà des dynamiques de post-confrérisme. Il y a aussi une réflexion, et tu le sais, fondamentale à l'intérieur des confréries pour notamment développer des logiques de discours qui touchent de manière nouvelle. Il y a aussi une virtualisation du confrérisme. Il y a une présence de plus en plus forte, etc. Donc il y a une volonté, en tout cas, ou une démarche de prise en compte des auditoires nouveaux, ou en tout cas une prise de conscience qu'il y a un gap aujourd'hui en termes d'offres. Qui est importante. Maintenant, effectivement, ça c'est une première brève remarque. La deuxième, il y a du texte qui dit de la violence dans le référentiel religieux. Bon, la question c'est comment faire en sorte qu'il y ait une nouvelle perception de ces textes-là et qui ferait quelque part la promotion, qui serait en soi une sortie de la violence aboutie. J'ai pas de réponse parce que à part utiliser du blanco pour retirer certains référentiels, tant que les référentiels sont là, il y aura toujours une série d'intelligences de lecture qui vont se pencher sur le texte. Donc on aura toujours quelque part une forme de champ d'interprétation qui reste dans la traduction de ce qu'on a pu toujours voir. Et à mon sens, je vais peut-être choquer, mais heureusement. Moi, je suis très content qu'il y ait un texte et des interprétations. Je peux espérer qu'il y ait une orientation qui véhicule plutôt une lecture qui fasse plutôt la promotion, qui soit en phase avec des principes du référentiel religieux, parce que je pense que ça va plutôt dans ce sens-là. Mais je n'évacue pas radicalement le fait qu'il y ait des interprétations et des intelligences sincères qui peuvent en faire d'autres traductions, d'autres interprétations. Et puis qu'il y ait des disputations théologiques, herméneutiques qui vont en découler, etc. Mais je suis toujours un peu mal à l'aise sur le fait d'avoir une dimension, je dirais, un résultat final qui irait dans notre sens. le texte permet cette latitude-là. Et il faudra voir comment, finalement, à partir des conséquences des lectures, on va pouvoir développer, on parlait du mot tabou, de vivre ensemble, de parvenir finalement à ce qu'il n'y ait pas des conséquences en termes de passage à l'acte, etc. C'est ça, à mon sens, le vrai exercice. Et non pas d'avoir une posture alors de mono-interprétation du référentiel religieux. Parce que tout le texte, que ce soit biblique ou coranique, etc., est sujet à des interprétations sans cesse renouvelées. Ce n'est pas pour rien qu'on a autant de tafsir, notamment pour le cas du Coran, depuis des siècles. On ne cesse d'affiner, d'élargir, mais aussi de confirmer la palette des interprétations possibles.
Merci Farid. Je pense que Cherkid souhaiterait rebondir sur la question de madame, sur les stratégies, les actions pour atteindre un jeune qui est sans emploi, en fait.
Bon, d'abord, mon cas, je ne suis pas dans l'apologie du confrérisme ni le confrérie bashing. Je pense que les confréries sont aussi diverses que tous les corps sociaux, qu'elles mutent, qu'elles connaissent des mutations extraordinaires. Si je prends l'exemple des confréries sénégalaises, Jean-Pierre Dozon, je regarde, je vois du rural à l'urbain, de l'urbain à la migration internationale, de la migration à la politique. Donc ça mute tout le temps pour s'adapter au contexte, aux enjeux. Ça essaie toujours de trouver des réponses, ça a aussi des problèmes et tout ça, évidemment. Effectivement, il y a aujourd'hui dans les confréries beaucoup de déçus aussi, effectivement, des gens qui cherchent des alternatives, du sens, ont parfois du mal à en trouver, mais peuvent aussi en trouver à l'intérieur des confréries. On le disait tout à l'heure à la pause, dans chaque confrérie, nous avons une multifonctionnalité au quotidien. Donc, dans chaque confrérie, nous avons des gens qui sont plutôt spirituels, d'autres qui sont plutôt des hommes d'affaires, d'autres qui sont plutôt... Voilà. Quand on cherche dans une confrérie des réponses selon sa sensibilité, on peut les trouver à travers plusieurs guides qui peuvent donner ces réponses-là. Maintenant, j'ai une réponse très facile par rapport à votre question, c'est que le cadre unitaire, il ne peut pas être dans tout. Je travaille moi-même dans une ONG qui, par contre, s'occupe de ça. Donc, il y a des ONG qui travaillent sur la question sur les jeunes, sur le chômage des jeunes. Donc, l'État est aussi là pour faire ça. Ce qu'on veut, c'est là où l'État est faible, ou en tout cas où il a du mal avec la laïcité, il a du mal à se saisir des questions religieuses, d'en faire de définir des stratégies dans le domaine du religieux et tout ça, que nous, cadres, qu'on puisse appuyer l'État et la nation pour que ces progrès-là puissent être enclenchés. C'est la petite réponse que je peux donner. Mais atteindre tous les jeunes, tous les chômeurs au Sénégal, en tout cas partout, pour le moment, nous n'en faisons pas un objectif au niveau du cadre. Et c'est pour ça, c'est pour investir à plus long terme que nous visons le système éducatif. Et que les prochaines générations soient beaucoup plus imbues des enseignements de nos grandes figures religieuses qui ne sont pas enseignées. Jamil me demande de le rappeler qu'au Sénégal, quand on a des enseignements sur les questions morales, sur les questions religieuses, on cherche ces références-là ailleurs, chez les philosophes des siècles derniers et tout ça, mais on ne les cherche pas au niveau des figures religieuses locales, et c'est ça que nous voulons corriger. Merci.
Merci. Donc, tu veux répondre ? Non ? Rapidement, vas-y.
Oui, peut-être, cher aussi, on peut dire que le cadre unitaire fait un travail incroyable pour les Dara. Et ça, je pense que c'est un premier pas qui est salutaire à rappeler, parce que les talibés quand même font partie de la nation, et malheureusement ils n'ont pas la même chance que tout le monde. Je réagis juste sur les textes, fermer les yeux aux textes bibliques. Farid a raison de le lire, parce qu'il y a mille et une façons de lire les textes, et heureusement
heureusement, pour moi, c'est une bonne chose. Et il y a des penseurs aujourd'hui, à l'intérieur même, qui essayent non pas de gommer les textes dits belliqueux, qui ne représentent même pas 3% du corpus coranique qui fait plus de 6000 versets, mais la question c'est comment lire ces moins de 3% à la lumière des 97% qui restent. Et là, il y a beaucoup d'écrivains, de chercheurs qui le font et qui sont même à l'intérieur même de la communauté. Je pense que ça, c'est important.
Merci, Jamil.